France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Bonjour à tous et à toutes. Rendez-vous ce matin avec la Fédération de chasse de la Creuse, comme chaque mois d'ailleurs. Depuis la rentrée, de nombreux sujets ont été abordés, comme le permis à 0 €, la législation, les formations et autres. Au programme ce matin, la vénerie, la chasse à court. Pour échanger avec vous, Jean-Marc Père pour la Fédération de chasse de la Creuse, accompagné de Laurent Leguet, maître d'équipage. Et si vous souhaitez poser une question, apporter un commentaire, c'est bien sûr au 05 55 52 37 38. Le même numéro également que vous pouvez continuer de composer. Si vous êtes témoin d'une galère ou d'une autre sur la route, ou si vous souhaitez nous signaler soit une sortie de route et autres, France Bleu Creuse reste à votre écoute. C'est au 05 55 52 37 38.
Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Laurent Leguet, Jean-Marc Père, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Juste pour faire un clin d'œil aux routes, Laurent Leguet, vous venez de quel secteur ?
Moi, je viens de Glénie.
Ça roulait bien ?
Alors la descente de Glény a été dégagée, mais malgré tout, il faut être très prudent quand même.
D'accord. Et pour vous, Jean-Marc Père ?
Eh bien moi, je viens de la Selle du Noix. C'était un peu compliqué par les petites routes, mais bon, après, il faut prendre son temps. On arrive, sans problème.
Sans problème. La chasse à court. Alors tout d'abord, Laurent Leguet, comme c'est votre premier passage dans le dossier du jour, nous allons faire un peu plus connaissance avec vous. Comment vous avez connu cette forme de chasse ? Comment vous y êtes mis ?
Alors, je suis issu d'une famille de chasseurs. Mon père chassait à tir, et puis après, bon, j'ai fait un cursus professionnel qui m'a éloigné de la nature, disons, hein, puisque j'étais cuisinier de métier, et donc j'ai abandonné la chasse. Et j'étais invité un jour par un ami en Touraine, et j'étais voir un équipage qui s'appelait le Rallye de Touraine, qui était géré par Madame Chevreux, qui est décédée maintenant. Et j'ai trouvé ça super. Et puis, quand j'ai pu me libérer de mes obligations professionnelles et m'installer en Creuse, j'ai dit, je vais passer mon permis de chasse. Donc, j'ai passé le permis de chasse à l'âge de 28 ans, donc tard, assez tard. Et je me suis mis au chien courant. Et puis, je me lassais un petit peu de la chasse traditionnelle, un peu à tir. J'avais le plaisir de courir derrière mes chiens à pied. Et je me suis lancé dans cette grande aventure qui était la vénerie. Alors, au début, on m'a pris un peu pour un illuminé, bien sûr, parce qu'en Creuse, c'était pas facile, avec les clôtures et tout ça. Mais il faut savoir que la vénerie existait déjà en Creuse depuis très très longtemps, hein, depuis les années 1800, date à laquelle on a recensé les équipages. Mais elle a toujours existé. Il y a eu des équipages de renom en Creuse, à peu près une trentaine, hein, j'avais recensé une trentaine d'équipages qui ont été créés avant moi, hein. Et je me suis pris de passion pour la chasse à court du chevreuil, car c'est un animal très rusé, très fin, que j'admire énormément. Et puis il y a un potentiel sur cette espèce qui fait que il méritait d'être chassé au chien courant et non pas comme il se faisait d'une façon traditionnelle en battue.
Comment devient-on maître d'équipage ?
Alors on devient maître d'équipage, déjà il faut avoir l'aval de nos instances, puisque la vénerie est gérée par il y a un bureau directeur qui est là pour piloter tout le monde. Donc il nous faut avoir un territoire, bien sûr, une meute de chiens qui correspond au cours, c'est-à-dire des chiens du 6e groupe. Il faut avoir donc des chevaux, et puis toutes les infrastructures qui vont avec. Donc après, avoir déposé son dossier auprès de la DDT, la Direction départementale des territoires, pour avoir une attestation de meute, il faut avoir l'aval aussi de la société de vénerie qui nous attribue à la suite un certificat de vénerie. Et avec ces deux éléments, on peut chasser à court pendant une année, et au bout de cette année, si tout s'est bien passé, tout est dans les règles et tout est bien fait, propre, on est renouvelé pour une période de 5 ans.
Jean-Marc Père, pour la Fédération de chasse de la Creuse, bien sûr, ce type de chasse répond à une législation précise, c'est aussi encadré que d'autres formes de chasse ?
Tout à fait, donc la vénerie, bien évidemment, est un mode de chasse qui est licite, hein, et qui, contrairement à beaucoup d'a priori souvent gratuits, est très encadré sur le plan réglementaire. Ce que M. Leguet vous disait, c'est qu'en fait, on ne devient pas maître d'équipage comme ça, et après, il y a une réglementation qui est très stricte, tant au niveau des chiens, puisqu'on a un nombre suffisant de chiens, donc on est soumis aux installations classées, donc il faut être aux normes. Après, vous avez, je veux dire, à présenter un dossier, il y a une enquête de moralité qui est faite sur vous. Vous avez, comme M. Leguet vous a dit, une première autorisation qui est d'un an, Après, on vous donne un laissez-passer pour 5 ans supplémentaires. C'est renouvelable tous les 6 ans. Et il faut savoir que cette attestation, s'il y a moindrement quelque chose, on peut vous l'enlever sans problème. Ça relève d'une décision du directeur départemental de l'agriculture, qui certes doit être motivé, mais on ne fait pas tout et n'importe quoi dans ce cadre-là, bien évidemment, comme dans l'activité chasse au sens large du terme.
Alors, à l'un et l'autre, nous avons pu l'évoquer rapidement avant le début de cette émission. La chasse à courre, la vénerie, ça a suscité sur le Facebook de France Bleu Creuse beaucoup, beaucoup de commentaires. Il y a des positifs, il y a aussi beaucoup de négatifs. Laurent Leguet, qu'est-ce que vous répondriez à celles et ceux qui disent « mais ça devrait être aboli, ça ne devrait pas exister ».
Alors, être aboli, non. Il faut savoir que le droit de chasser a été réinstauré au peuple par la loi chasse, tout de suite à la Révolution. Hein, ça a été dans les premières lois qui ont été, c'est l'article 3 des premières lois qui ont été données aux citoyens dans la nuit du 4 août 1789, où tout citoyen avait droit de chasse, alors qu'avant c'était un privilège féodal qui était réservé aux seigneurs. Alors on dit beaucoup de choses, on dit tout et son contraire. La vénerie n'est pas une chasse de bourgeois, malgré ce qu'on pense. Moi, je ne suis pas issu d'un milieu bourgeois.
Alors, si je reprends le terme exact sur Facebook, c'est de riche.
De riche. Alors, moi, je ne suis pas riche. Je suis riche de mon travail, mais riche de la culture qu'on m'a donnée. Mais je ne suis pas né avec une petite cuillère en argent, en parlant vulgairement, dans la bouche. Moi, mon père était chauffeur laitier, ma mère élevait des cochons. Je suis le quatrième enfant d'une fratrie de 6. On m'a appris à travailler, et du fruit de mon travail, j'en ai fait. Et j'ai pu me sortir une passion. Mais c'est loin d'être un sport, une pratique réservée aux riches, aux bourgeois. Il faut savoir que la vénerie accueille tout le monde, de toute confession, de toute couleur, de tout milieu. Que ce soit des chômeurs, que ce soit des patrons, que ce soit des artisans, tous les gens qui sont passionnés par la nature et par le chien courant. Et il faut savoir que la chasse à courre est l'une des formes de chasse la plus écologique qui soit.
Jean-Marc Père, j'ai relevé, alors parmi les nombreux messages, je m'en excuse par avance, mais on ne pourra pas tous les citer dans cette émission, Marie-Thérèse qui nous écrit « Dès que l'on rentre dans le dialogue de la chasse, c'est une polémique pas possible. La chasse de la faune sauvage doit être gérée correctement, mais pas interdite. Et bien évidemment, la vénerie, comme vous nous l'expliquiez il y a quelques instants, répond à des règles précises. »
Ah mais tout à fait, je veux dire, comme toute l'activité chasse, et c'est vrai qu'il faut relativiser l'activité vénerie, puisque c'est quelque chose qui est maintenant passé un peu dans les mœurs. Tout le monde a la possibilité d'y accéder, puisque beaucoup d'équipages sont structurés en association. Donc, en fait, on a des gens qui adhèrent et puis qui alimentent pour pouvoir tout simplement assurer l'entretien des chiens. C'est quand même un coût. Dans certains cas, payer des locations pour pouvoir avoir la possibilité de chasser. Donc, généralement, c'est pas une personne qui a, comme on dit, un gros paquet d'argent et qui chasse comme un bourgeois. C'est fini cette image-là, il y a peut-être quelques équipages, mais notamment la majorité...
C'est l'image de la prestance peut-être...
Ce qui est un peu gênant, si vous voulez, on recense à peu près 400 équipages en France.
Et en Creuse ?
En Creuse, on en a 7, c'est ça.
D'accord.
Et la majorité des équipages, c'est des équipages de vénerie au lièvre, c'est-à-dire qu'on suit la chasse à pied et à vélo. Donc, pour des gens qui ne connaissent pas, il faut prendre rendez-vous avec des veneurs, notamment, qui chassent le lièvre à pied, et vous verrez qu'au bout de la journée, ils auront une autre idée de ce qu'est la vénerie, notamment du lièvre, comme pour le reste de la vénerie. Ça demande une condition physique énorme, et là, il n'y a pas, je veux dire, là, c'est pas le... disons, l'attrait de prendre un lièvre, parce que le lièvre en lui-même, il a l'intérêt, c'est de faire travailler des chiens, mais pour aimer simplement voir comment les chiens travaillent, et puis le fait de prendre, c'est une finalité, c'est une récompense pour les chiens, mais ça se pratique avec beaucoup d'éthique, notamment la vénerie du lièvre.
Vous souhaitez intervenir, poser une question, apporter votre commentaire dans le respect de la parole de chacun, 05 55 52 37 38.
J'accepte par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais j'ai pas toute ma raison. sais, j'ai toujours raison. Tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais. J'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça, tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons entrecoupé de silence qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me courir dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison.
Ton invitation, Louise Attaque.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Consacré à la vénerie, à la chasse à cour, pour échanger avec vous, Jean-Marc Père, pour la Fédération de chasse de la Creuse, et Laurent Leguet, maître d'équipage. Vous avez une question à leur poser, vous avez un commentaire à apporter, n'hésitez pas, c'est au 05 55 52 37 38. De très nombreux messages nous sont parvenus sur la page Facebook de France Bleu Creuse, mais nos invités sont également prêts à échanger en direct avec vous. Et justement, par rapport à ces messages, messieurs, nous avons eu celui d'Olivier, alors là, qui est plus dans le pratico-pratique. Trouvez-vous normal que lors d'une chasse à cour ou d'une battue signalée sur la route, l'automobiliste se trouve responsable s'il percute le gibier poursuivi? Jean-Marc Père peut-être, ou Laurent Leguet?
Non, alors il faut savoir que en action de chasse, nous sommes responsables du gibier. Alors, il y a une différence entre le tir et le cours. À cours, le gibier est res propria, donc il est la propriété de celui qui l'a levé, c'est-à-dire qu'on le mène de ce qu'on a dit de meute à mort. On en est responsable dans toutes ces traversées, que ce soit la route ou autre. En cas de collision, ça sera l'assurance du maître d'équipage ou de l'association qui va marcher. Il est pareil, par contre, à tir, lors d'une battue, un animal qui est traqué par les chiens et qui traverse une route, et ça sera pareil, en cas de collision, ce sera toujours l'assurance du chasseur qui va marcher.
Oui,
oui, tout à fait, du chasseur ou de la, notamment pour les ACA, elles ont également cette couverture-là. Donc après, si vous voulez, généralement, ça se passe sans problème. Alors, en dehors des actes de chasse, bien évidemment, moi, comme Monsieur Leguet, on est déjà rentré en collision avec des chevreuils, et ben c'est vrai que si on est assuré tout risque, et ben on est indemnisé. Si on est au tiers, malheureusement, bon, là pour soi, il y avait un fonds qui a été prévu il y a quelques années pour indemniser les gens. Ce fonds-là a disparu et on s'en remet maintenant aux assureurs, dont acte.
Laurent Leguet, chasse à cour chevreuil en ce qui vous concerne, oui. Est-ce que ça rentre dans le plan de régulation au niveau de la faune des chevreuils ou...
Oui, tout à fait. Ça fait partie de la régulation, puisqu'on a un plan de chasse qui est attribué par rapport à un territoire. Et ce territoire où on chasse, donc on se sert de ces plans de chasse, il fait partie de la régulation des animaux. Il faut savoir aussi que le cours permet aussi... Alors, on dit qu'on déplace beaucoup d'animaux, c'est faux, parce que le but, c'est de chasser avec des chiens créancés, une espèce, en l'occurrence, comme moi, le chevreuil, et mes chiens sont créancés sur un seul et même animal. Donc, les chiens ne déplacent que l'animal chassé, en fait. Bon, il arrive que des autres animaux se déplacent pour pas être poursuivis, mais ils ne vont jamais loin, puisque ils comprennent très vite que la chasse n'est pas pour eux. Mais fait partie des gens qui font la régulation sur les espèces. Oui.
Comment ça se passe pour ceux qui n'auraient jamais assisté à ce genre de chasse ?
Alors comment ça se passe pour le chevreuil
en attaque ? Parce que là, je pense qu'il y a plein de...
Oui, les gens ne connaissent pas, d'abord je les invite à se rapprocher des équipages pour venir voir, et après apporter un jugement par rapport à ça. Mais comment ça se passe une journée de chasse au chevreuil ? Enfin, pour le chevreuil, le cours du chevreuil, on chasse à la bibaude, c'est-à-dire qu'on met les chiens au bois, sans faire le pied, et on foule l'enceinte pour trouver un animal. Ensuite, la meute, comme c'est une meute, elle va se créancer derrière cet animal qui est levé. Donc on va le chasser, on va essayer de déjouer toutes ses ruses. Et là, le veneur, n'intervient que pour encadrer la meute. Ce sont les chiens qui font le travail, du départ jusqu'à la fin. Et on est là pour encadrer les chiens, pour faire attention qu'ils ne changent pas d'animal pendant le cours, et puis s'assurer que les chiens qui sont un peu à la traîne les remettent en meute. Mais on intervient que dans ce sens-là. Après, dans d'autres modes de chasse, comme le cerf ou le sanglier, on fait le bois le matin, c'est-à-dire que vous avez des ce qu'on appelle les valets de chiens, c'est un terme de vénerie, ce sont les chiens qui partent avec un chien en laisse, au bois, et ils vont rechercher des indices de présence des animaux par le pied. Et on fait le tour de l'enceinte, on rembuche l'animal s'il ne sort pas de l'enceinte, on met ce qu'on appelle une brisée, c'est-à-dire une branche cassée, dans le sens où part l'animal, et après on va chercher la meute pour pouvoir attaquer cet animal.
Vous comprenez que ça peut être mal perçu.
Tout à fait, tout à fait. Mais souvent, les critiques viennent par la non-connaissance, en fait. Après, quand on connaît, on peut se dire, c'est comme un plat. Vous mangez un plat, vous ne pouvez pas dire avant de l'avoir goûté, je n'aime pas. Donc là, c'est pareil. Il faut quand même venir voir. J'invite les gens qui ont un peu de raison de venir nous voir. On est là pour ça, ou bien au contraire, la vénerie est très ouverte. Et leur montrer quelle est notre façon de chasser.
Et vous n'hésitez toujours pas, 05 55 52 37 38, c'est assez étonnant ce décalage qui est entre les appels et le nombre de messages sur la page Facebook de France Bleu Creuse ce matin. En revanche, Laurent Leguet, ce style de chasse est déjà interdit dans d'autres pays.
Alors, c'est faux, c'est interdit. En Angleterre, il y a eu une loi qui interdisait la chasse à courre, et elle se pratique toujours sous une autre forme, mais la chasse à courre existe toujours en Angleterre, elle n'a jamais arrêté, elle n'arrêtera jamais. Il faut savoir que la chasse à courre ne se pratique pas qu'en France, elle se pratique dans beaucoup d'autres pays, aux États-Unis aussi. Et donc là, on parle aussi des pays où on dit la vénerie, c'est-à-dire qu'elle est structurée, régie par des associations. Et il y a d'autres pays où on chasse à courre, et comme le Maroc, tout ça, où on va chasser le chacal avec des slougis. C'est une forme de chasse à courre aussi. Mais la chasse à courre existe depuis la nuit des temps et dans pratiquement tous les pays.
Jean-Marc Père.
Oui, et on parle de l'action de la vénerie, effectivement, qui participe au prélèvement, notamment, et la régulation des grands animaux. Faut quand même relativiser l'impact de la vénerie, puisque on a quand même, globalement, à l'échelon, si on revient à l'espèce que Monsieur Leguet chasse, on a près de 600 000 chevreuils qui sont prélevés tous les ans à l'échelon national pour assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Ne parle que du chevreuil. Mm-hmm. Et, toute espèce confondue, la vénerie, qui regroupe à la fois la vénerie du lapin, du lièvre, du chevreuil, du cerf, du sanglier et du renard, pour toutes ces espèces-là, ces six espèces-là, il y a seulement un prélèvement de 4000. Donc vous voyez que c'est une activité qui... je veux dire, reste à la marge par rapport aux prélèvements qui sont assurés sur le plan national. Si je peux également vous citer, sur les sangliers, on est à près de 700 000 sangliers qui sont prélevés. Imaginez ce que, quand je vous dis 4000 animaux prélevés dans le cadre de l'ensemble de la vénerie, par rapport à c'est ridicule.
Alors par rapport à ces prélèvements, là vous me lancez la balle. Nous avons eu le message de Julien qui dit la population de cervidés augmente un petit peu partout, comme celle des sangliers, car ces derniers n'ont plus de prédateurs et les chasseurs usent de cet argument pour dire qu'ils sont donc utiles à la régulation de ces animaux.
Mais quelle est l'espèce qui est, enfin, on connaît-on, je veux dire, à part le loup qui, dans certains cas, quand il réapparaît, va s'attaquer, déjà principalement dans la facilité, à aller croquer quelques moutons, quand il a un peu de temps, qu'il a un chevreuil qui peut croquer, mais je veux dire, c'est pas, si on extrapole, une espèce comme celle-là, même si un jour elle revient, qui va réguler les ongulés qu'on a. C'est, et ce qu'il faut savoir, et je rappelle quand même, tout simplement, c'est que non seulement on effectue cette mission-là, mais en plus, ce n'est pas les deniers publics qui indemnisent les agriculteurs. Il y a 50 millions tous les ans qui partent pour indemniser les agriculteurs. Et c'est uniquement les chasseurs qui sortent l'argent de leur poche. Donc non seulement ils effectuent cette régulation, mais en plus ils payent les dégâts causés par ces espèces-là.
Hein ? Ah, Julien qui rajoute également, on est en train de faire la même erreur avec le renard, ce qui génère une prolifération des rongeurs.
Oui, ça n'engage que celui qui le dit. Je veux dire, manifestement, il y a d'autres études qui démontrent que, malheureusement, on a beau laisser le renard se multiplier, c'est pas ça qui va... Effectivement, il joue son rôle, le renard, mais manifestement, vu les invasions qu'on a, notamment de campagnols, ben malheureusement, le renard est pas capable de venir à bout, et je crois que c'est... L'objectif, c'est comme dans tout, il faut rester dans un juste milieu. L'action du chasseur est là pour réguler un petit peu l'objectif, quelle que soit l'espèce, et pas d'éradiquer une espèce. Simplement, dès l'instant que l'homme intervient, est présent, il y a des intérêts, que ce soit économique et ainsi de suite. Donc il faut garantir, notamment par rapport au grand gibier, l'objectif de certaines fédérations, la majorité, n'est pas de laisser développer les populations, notamment de sangliers, parce qu'on va vers une situation de banqueroute. Et c'est l'État, et c'est-à-dire... le commun des mortels qui va alimenter la caisse, tout simplement. L'objectif, c'est d'assurer le contrôle des populations. Ça va pas plus loin.
Tout de suite, nous allons accueillir Patrick. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, Patrick. Nous vous écoutons.
Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de la responsabilité des chasseurs au point de vue du gibier qui coupe la route et qui cause des accidents aux véhicules. Mmh. Moi, je voudrais savoir si, en installant des panneaux pour indiquer aux véhicules de ralentir, si les chasseurs sont encore responsables, tout en signalant que ces véhicules ne ralentissent pas et passent à vitesse élevée.
Alors, nous allons rappeler les règles, Jean-Marc Père.
Si vous voulez, bon, on a fait passer dernièrement, suite à un courrier qu'on a reçu du conseil départemental, et on est lié par rapport à la chasse notamment du grand gibier, une obligation de moyens. C'est-à-dire que l'objectif, quand on sait qu'on va croiser une départementale, on risque de croiser, l'objectif, c'est dans la zone en question, c'est de signaler qu'il y a une battue. Donc on a une réglementation qui est bien précise par rapport à ça. Le fait de poser les panneaux, on signale un danger qui est temporaire, avec le panneau adéquat, mais à partir de là, si vous voulez, certes, s'il y a un dommage, bien évidemment, la CCA ou la personne physique qui est assurée prend en charge le sinistre, qui paraît logique, mais à partir de là, il n'y a pas de notion, c'est pas parce qu'on a mis les panneaux aux bons endroits qu'on est dédouané d'une responsabilité. Je veux dire, on a l'obligation de moyens. En plus, chaque cas est un cas d'espèce. Donc, on a l'obligation, si vous voulez, de signaler une obligation de moyens, mais de toute manière, ça ne gomme en rien la responsabilité.
Voilà, Patrick.
Merci.
À votre service, à votre écoute, et il vous reste du temps si vous aussi vous souhaitez intervenir. C'est au 05 55 52 37 38.
Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain, fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
France Bleu. Michel Leeb a choisi France Bleu pour fêter ses 40 ans de carrière avec son grand one-man show anniversaire.
Cette année, je fête mes 40 ans de scène avec France Bleu. Swing et comédie, c'est un véritable spectacle de music-hall, comme je les aime.
Michel Leeb, accompagné par 5 musiciens, dans un one-man show anniversaire à son image, avec ses meilleures parodies, imitations et sketchs désormais cultes.
40 ans de bonheur en scène, 2 heures de plaisir à partager bientôt avec vous, chez vous.
Bon anniversaire Michel Leeb. Spectacle en tournée dans toute la France.
Place disponible dès maintenant dans les lieux habituels. Une tournée France Bleu.
Rendez-vous sur France Bleu et sur francebleu.fr.
Suivons Stéphane dans sa visite privée d'une véranda à Kéna.
Je suis très heureux de vous faire découvrir cette véranda exceptionnelle, installée par l'une des 65 agences à Kéna présentes en France.
65 agences ?
Oui, et ce n'est pas tout. Savez-vous que chaque projet est pris en charge par un technicien conseil à Kéna qui le suit pas à pas jusqu'à l'installation ? C'est royal, non ? À Kéna, la reine des vérandas.
France Bleu Creuse. France Bleu.
I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Oh,
la chasse à court. Nous attendons vos questions, vos commentaires sur cette vénerie. Pour vous répondre en direct dans le studio, Jean-Marc Père pour la Fédération de chasse de la Creuse et Laurent Leguet, maître d'équipage.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Et c'est bien sûr au 05 55 52 37 38. Encore une précision sur la chasse à court concernant le chevreuil, Laurent Leguet. Il paraît qu'on ne chasse que les mâles.
Non, alors le chevreuil, c'est...
C'est vrai ou c'est faux?
Non, c'est... je ne chasse pas que les mâles. C'est très difficile à faire créancer les chiens sur le mâle ou la femelle. Par contre, au cerf, oui, on chasse que les mâles. Mais après, dans l'espèce chevreuil, non. La voix est la même, c'est-à-dire l'odeur qu'il laisse entre le mâle et la femelle est quasiment la même. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de différencier l'animal que l'on veut chasser.
Et nous en parlions à l'instant pendant le disque, Jean-Marc Père, les femmes sont très attirées par la chasse à court.
Et oui, parce que la proportion de femmes qui pratiquent la vénerie est plus importante que le reste. C'est-à-dire qu'on a, entre par rapport au nombre de gens qui suivent et qui sont boutons, on a 10 à 15% de femmes qui sont dans les équipages de chasse à court. Et si on revient à nos statistiques, nous départementales, on a seulement 2 à 3% de femmes qui chassent. Donc manifestement, c'est quelque chose qui attire aussi les femmes de suivre, notamment les chasses à court.
Laurent Leguet, vous confirmez ?
Oui, je confirme tout à fait, oui. Le pourcentage est un peu plus élevé au niveau national. On recense 30% de femmes au sein des équipages, oui. De femmes, et puis après, il y a les jeunes. Sachant que ces gens qui viennent à la vénerie, il n'y a pas d'armes. hein, puisque la prise se fait au chien. Après, bon, on serre l'animal. Quand c'est un cerf ou un sanglier, c'est servi à la dague. Et au chevreuil, ben, il est servi par l'homme à main. Mais il n'y a pas d'arme dans l'action de chasse. Donc, ce qui plaît beaucoup, c'est aux gens, c'est le fait de se retrouver en osmose avec son cheval dans la nature, ou même à pied, accompagnant les chiens dans la nature, ça plaît énormément.
Et donc, on est loin de la bannière, cette chasse.
Tout à fait.
Et de l'abolir.
Ah oui, encore moins.
Du côté des règles, Jean-Marc Père, vous nous l'avez précisé hein, dans le début de cette émission, la chasse à courre répond évidemment à des réglementations précises. On peut en revanche pas chasser à courre partout.
Ah bah non, de toute manière, il vous faut la possibilité d'attaquer sur un territoire. Et en plus, bah souvent, pour certaines
votre
espèces...
Votre définition de la notion de
si territoire. Vous voulez, pour des espèces, quand vous chassez à court le lapin, ça demande en fait un territoire tout à fait petit. Donc mm-hmm. le problème se pose pas. Mais dès l'instant que vous chassez à court des espèces comme le chevreuil, comme le cerf, comme le sanglier et quelquefois le lièvre, vous sortez du territoire sur lequel vous avez l'autorisation de découpler. Donc en règle générale, et c'est la règle absolue, vous devez avoir l'accord des territoires voisins pour suivre l'animal qui est chassé. Si vous n'avez pas l'autorisation, c'est une infraction de droit commun. Et tout simplement, quand vous pénétrez sur un territoire sur lequel vous n'avez pas le droit de suite, eh ben, le maître d'équipage, qui est responsable, généralement, arrête la chasse, tout simplement, parce qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas le droit de suite.
Laurent Leguet, bah, effectivement, vous confirmez, hein, en tant que maître d'équipage, vous en avez la responsabilité.
Bien sûr, tout à fait. On est responsable de l'acte de chasse, du départ jusqu'à la fin. Je voyais tout à l'heure dans les commentaires qu'il y avait sur la page Facebook...
Et vous ne les avez pas tous vus.
Et je ne les ai pas tous vus. Et puis, c'est regrettable, d'ailleurs, que les gens qui envoient des commentaires ne viennent pas s'exprimer de
vivre. Ils ont encore la possibilité de le faire, hein, 05 52 37 38.
Je souhaite qu'ils le fassent parce que ça serait bien, ça c'est mieux que d'écrire. Et donc pour les actes, enfin les événements qui se sont passés dans l'Oise, il y a une réponse à apporter parce qu'on dit tout et surtout n'importe quoi. Et il faut savoir que le maître d'équipage est responsable de l'acte de chasse, comme je vous disais. Donc il était responsable de l'animal qui s'est réfugié dans un sous-sol, enfin pas dans le sous-sol, mais devant la porte de garage d'une maison. Et malheureusement, il n'avait pas d'autre choix que de servir l'animal, parce qu'il est facile de dire, on se retire, on laisse l'animal. Il faut savoir qu'un cerf, c'est pas un lapin. Ça reste un animal qui est dangereux, malgré tout. On n'est pas dans un monde de bisounours, la nature se défend, elle a ses droits, et puis ça ne réfléchit pas. Et donc, l'acte qu'il a fait était tout à fait légal et légitime, puisqu'il est accompagné par la gendarmerie qui lui a demandé de mettre un terme à l'action de chasse. Il n'est pas d'autre choix que de faire ça.
Alors, je ne vais pas vous donner sur l'antenne, tout le message que nous a laissé Typhus, parce que c'est un message très très conséquent, mais nous l'en remercions. Il vous écrit « La chasse à courre n'est pas un acte barbare, ni même l'expression d'une quelconque sauvagerie. La vénerie est une composante indiscutable du patrimoine matériel et immatériel de la France. »
Tout à fait. Tout à fait. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un droit qui a été accordé au peuple, le droit de chasser. Hein. Et la vénerie en faisait partie, puisqu'elle était réservée avant, c'était un privilège réservé au seigneur, hein, et le peuple a accès à la vénerie, et ça fait partie de nos traditions françaises, comme l'a dit notre président de la République, qu'il était attaché aux valeurs et au respect de nos traditions, tout comme la Saint-Cochon chez nous, qui peut paraître barbare, mais c'était une façon de se nourrir aussi chez nous, comme on va écorcher le lapin du clapier, voilà, ça fait partie de nos traditions, et la chasse à courre fait partie d'une des traditions françaises, et puis pas que françaises, mais structurée comme elle est, c'est notre tradition française qui est un exemple d'ailleurs au niveau national, qui est reconnu d'ailleurs par le monde entier de par sa structure et de la manière qu'on pratique la vénerie.
Jean-Marc Père, comme vous représentez la Fédération de chasse de la Creuse, je vous demande une réaction au message d'Agnès. Tous ces commentaires anti-chasse, même certains qui disent que l'on n'est plus libre en France, eh bien ce sont les premiers à vouloir abolir la chasse à courre, ce sont déjà eux qui font que certains ne seront pas libres.
Oui, après...
Vous êtes blindé par rapport aux commentaires anti-chasse, non ?
Oui, ben on a l'habitude. La seule chose qui est regrettable, c'est que souvent, c'est dans beaucoup de domaines, les gens ont un a priori gratuit sur des choses. Il suffit de présenter un cas d'espèce et le médiatiser. Et tout de suite, on arrive à façonner le point de vue des gens. C'est fort regrettable, quoi. qu'on ait un point de vue, on a le droit d'avoir un point de vue, on a le droit d'avoir des différences de point de vue, c'est tout à fait normal. La seule chose, c'est qu'on puisse juger réellement de ce qui se passe.
C'est un peu ce que nous disait Laurent Leguet tout à l'heure.
C'est évident. Moi, je veux dire, j'ai emmené des gens pratiquer par rapport à ce que je chasse. Ben, je vais vous dire, non seulement ils ont été fatigués, très fatigués, parce qu'on a marché une journée à pied. Mmh. Et à partir de là, ben, ces gens-là, ils disent, eh ben, je ne m'attendais pas à ça, c'est quand même autre chose.
Tout de suite, nous allons accueillir Virginie. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Virginie, nous vous écoutons.
Merci. Moi, c'était juste pour apporter justement mon témoignage au sujet de la chasse à cour,
oui.
Pour confirmer effectivement ce que disaient Monsieur Père et Monsieur Leguet, pour témoigner que moi, personnellement, je suis une femme qui suit la chasse à cour et qui est passionnée par la chasse à cour. Et donc, du coup, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure pour dire que les femmes pouvaient se sentir très bien et à leur place dans ce mode de chasse. Mmh. Et aussi pour confirmer le fait que, effectivement, je pense que pour pouvoir donner notre propre opinion et notre propre avis sur la chasse à cour, le mieux est effectivement de s'y rendre au moins une fois dans sa vie pour pouvoir dire ce qu'on en ressent vraiment, quoi. Moi, il y a 17 ans que je suis la chasse à cour. Mmh. Et du coup, il y a 17 ans de ça, quand on me parlait de chasse, j'étais, on va dire, plutôt réticente. Et puis, ma première chasse s'est faite à cheval, parce que c'est le cheval qui m'a amenée vers ce mode de chasse.
C'est ce qui vous a attiré le plus au départ ?
Voilà, tout à fait, oui. L'équitation au départ, qui ensuite, j'ai eu l'occasion de pouvoir découvrir une première chasse à cour. Et puis, on va dire qu'après, on est pris dans le jeu, on est pris dans le jeu, quoi, on peut dire ça comme ça. Et tout simplement, on est au milieu de la nature, on est sur son cheval, on voit du paysage, on écoute une meute de chiens qu'on voit heureuse de s'exprimer derrière un animal quel qu'il soit. Et tout simplement, c'était mon témoignage pour dire que j'ai eu la chasse à cour.
Quelques mots, Laurent Leguet avec Virginie.
Oui, pour confirmer ce que dit Virginie, c'est vrai que beaucoup de femmes sont arrivées à la chasse à cour, de par le cheval, déjà l'équitation, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent l'équitation, et qui ont été invitées, ou qui se sont retrouvées, des fois par le biais d'une promenade en forêt, à être confrontées à la chasse à cour, et qui se sont pris dans le jeu de cette chasse, de poursuivre un animal. Alors, il faut savoir aussi que l'animal n'est pas toujours pris, on prend une fois sur quatre. La moyenne nationale, c'est une fois sur quatre. Donc l'animal a beaucoup plus de chances qu'attire, c'est qu'il y a de le dire. Il y a beaucoup plus, il ruse, il a des ruses que nous n'avons pas. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes sont attirées par la chasse à cour, mais il n'y a pas que les femmes, il y a beaucoup de jeunes, comme je vous disais, beaucoup de novices qui ne connaissaient pas, qui ont demandé à venir voir, et qui, on aime ou on n'aime pas, mais quand on aime, on est à fond. Et je crois que les femmes sont peut-être beaucoup plus motivées encore que les hommes.
Jean-Marc Père, vous souhaitez intervenir ou...
Oui, je crois que quand on voit, si vous voulez, en Creuse, ça existe un petit peu, mais dans des forêts domaniales bien connues, où on découple, que ce soit pour du cerf, du sanglier, du chevreuil, vous pouvez voir énormément de gens qui suivent à pied, et maintenant de plus en plus en VTT, ce qui des fois est un handicap, parce que ça gêne un peu la chasse, mais il y a des gens, tout simplement, et vous les interrogez, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils suivent, l'animal chassé, ils suivent le travail des chiens, ils voient comment ça se passe, ils joignent un peu l'utile à l'agréable, ils font du sport, ils découvrent plein de choses. Et c'est vrai que ça pose un certain problème dans certaines forêts, parce qu'il y a de plus en plus de gens, notamment, qui suivent en VTT.
Virginie, merci à vous d'avoir pris le temps de nous apporter votre témoignage.
Merci.
À bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Le dossier du jour, avec Granit et Marbre Mourier. Tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
En conclusion pour aujourd'hui, Laurent Leguet, en quelques mots.
En quelques mots, je dirais vive la chasse à cour. Et puis, perdurant dans cette discipline, la chasse à cour a de l'avenir. Je pense sincèrement, il y a beaucoup de jeunes qui viennent à la chasse à cour, qui passent leur permis de chasse. et qui viennent gonfler les effectifs de nos fédérations, qui n'est pas négligeable. On dit que les chasseurs sont peut-être en perte de vitesse. Je pense que c'est faux. On baisse peut-être en inscription, mais on gagne en nombre. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent la chasse. C'est pas parce qu'on compte les chasseurs, mais autour d'un chasseur, on gravite à peu près une quinzaine de personnes qui sont pour la chasse et le maintien de la chasse. Je crois qu'il faut pas arrêter, et je pense qu'on a quand même de l'avenir. On va se battre pour garder cette tradition qui est une belle tradition.
Jean-Marc Père, en deux mots.
Que la chasse à courre, comme l'ensemble des modes de chasse, le principe c'est qu'il perdure dans le temps et qu'il perdure par rapport à une certaine éthique. Je pense que c'est le rôle des fédérations de défendre ça. La vénerie fait ses preuves et tous les modes de chasse sont encadrés. Et je veux dire, il n'y a pas de raison. Il y a des règlements. Je rappelle simplement, on l'a déjà dit une fois, c'est que le permis de conduire, il faut faire plusieurs infractions pour le perdre. Le permis de chasser, première infraction, le juge a la possibilité de vous l'enlever. Et ça veut dire que là, vous repassez l'examen. Et c'est pas toujours simple d'obtenir l'examen du permis de chasser maintenant.
Merci beaucoup, messieurs. Demain, c'est Jacques Robert pour UFC Que Choisir qui sera notre invité. Demain, il sera plus particulièrement question des changements pour 2018 concernant notre voiture qui vont pas forcément nous faire plaisir, mais pas faire plaisir non plus à notre portefeuille.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, à retrouver sur francebleu.fr.
Et nous restons